vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Nous sommes ravis d'être avec vous sur Radio Campus 106,6 FM et DAB+, de 18h à 19h pour parler d'actualités geek et ludique. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Bonsoir à toutes.
Comme d'habitude, un parcours parsementé de petites musiques d'albums découvertes. Et on ouvre tout de suite l'agenda et un événement qu'on suit particulièrement depuis plusieurs années. C'est nos amis du Carpodium qui remettent le couvert avec la Carboflip.
C'est la numéro 5, quand même.
Alors, le concept de la Carboflip, c'est bien sûr du flipper et de la carbonade flamande avec un concours. Alors, la grande question, c'est est-ce que cette année, y aura-t-il un concours de carbonade, puisque chaque participant peut proposer sa propre version et venir cuisiner son plat, qui sont ensuite dégustés, pour élire la meilleure carbonade de la Carboflip.
Seulement, la différence, c'est qu'il faut ramener ses contenants, enfin, ses couverts et compagnie, c'est plus sûr.
Et là, ça va être de la Carboflip and Collect. Alors tout ça va se passer au centre-ville de la Croix-du-Bac.
À côté de Stavert.
Alors, ça se passera le samedi 29 mai de 11h à 14h. Et il y aura, bien sûr, pour ne pas déroger à la tradition, un mini tournoi en une bille du flipper. Puisque ça serait dommage de venir chercher sa carbonade et de ne pas taper quand même une petite partie.
Voilà, une seule bille comme ça, hop, tu peux la désinfecter, c'est plus facile. Et ça évite de contaminer. Parce que le flipper, à moins de décontaminer entre chaque joueur, ça risque de prendre du temps. Donc là, au moins, c'est pratique. Une bille chacun.
Voilà, ça fait plaisir de voir que tout doucement, ce genre d'événement va revenir. Un autre événement, alors cette fois-ci, qui va s'étaler sur plus d'un mois, c'est le Biennale International d'Art Mural, alors qu'on appelle le BIAML, et qui fête lui aussi sa 5e édition. Alors ça, c'est présenté par le collectif Renard.
Renard, N-R-E-N-A-R-T, bien sûr, hein, parce que c'est de l'art. Non, c'est pratique parce que les artistes, vu qu'ils ne peuvent pas vraiment exposer à l'intérieur, du coup, tu prends tous les artistes qui font des œuvres dans la rue. Donc c'est sur toute la région, et si on va sur le Facebook du collectif Renard, donc R-E-N-A-R-T, chaque jour, ils présentent un artiste différent.
Donc plus de 20 artistes répartis sur 10 villes des Hauts-de-France.
Ce qui est bien, c'est que sur le site donc collectif-renart.com, comme c'est la 5e édition, il y a une carte, pardon, une carte interactive où tu vois dans toute la région les anciens endroits où sont encore exposées des œuvres. Donc tu peux très bien te balader et puis découvrir ou tomber dessus par hasard si tu as de la chance.
Alors pour quitter l'agenda, toujours, on considère ça toujours dans l'agenda, le Epic Game ?
C'est l'actualité, on va dire. C'est pas un rendez-vous qu'on donne à des gens de se retrouver à tel endroit, à telle date, mais c'est l'actualité du moment.
C'est ce qui se passe, quoi.
Cette fois-ci, ce n'est pas un événement, c'est...
C'est la guerre.
Parle celle de Bill Gates d'abord ou celle de Epic Games?
Voilà. Oui, c'est vrai que au moment où le jour où on enregistre le matin, j'ai entendu à la radio, oh mon Dieu, Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce. Ils étaient mariés depuis un peu plus de 27 ans. Ouais. Donc ils ont une petite fortune à se partager de un peu plus de 120 milliards tous les deux.
Voilà, on n'en parle pas parce que c'est Bill
Gates. Je pense
Gates.
Pas que ce soit vraiment le but du divorce, quoi. Et avec sa femme Belinda, ils ont beaucoup d'œuvres caritatives. La plus connue, c'est la fameuse Bill et Melinda Gates Foundation, qui œuvre beaucoup en Afrique. Je crois qu'ils ont dépensé plus de 50 milliards, ils dépensent au moins 5 milliards par an, mais ils ont dépensé plus de 55 milliards dans des œuvres pour financer de la lutte contre diverses maladies, contre la pauvreté. Donc il y a plein de gens qui disent, est-ce que ça va continuer? Mais de ce côté-là, il n'y a pas de souci, quoi. Ils vont peut-être plus s'entendre entre eux, mais ils vont continuer à gérer la Fondation tous les deux, je pense.
Surtout qu'ils ne la gèrent pas tout seuls derrière, ils doivent avoir plusieurs bénévoles. Mais on n'en parle pas parce que Bill Gates a tenu 27 ans. On en parle surtout au niveau de la fortune qu'ils vont se partager. Ça me rappelle toujours le sketch d'Eddie Murphy avec le Half, où il va devoir donner la moitié de sa fortune.
Je crois que ça ne va pas le gêner. Il n'y a pas longtemps, il y a Jeff Bezos et sa femme Mackenzie, je crois, qui ont divorcé. Ils se sont séparés à peu près. Elle est partie avec 30 000 milliards. Donc ça, il y a de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il va pas se retrouver sur la paille.
Je savais pas qu'on avait ouvert une section gala, voici dans l'émission.
Mais c'est Bill Gates, et puis ça fera plaisir aux gnous. Alors, dans ceux qui s'arrachent aussi, il n'y a pas que les couples, il y a également certaines compagnies, et notamment dans le jeu vidéo. On ne peut pas parler d'éditeur, enfin quoi que éditeur et revendeur de jeux vidéo, tel qu'Epic Games, qui essaie...
C'est là que justement que ça devient compliqué, c'est que font ces gens exactement, comment ils gagnent de l'argent. Bill Gates, on sait comment il a gagné de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais on parle d'Epic Games, on parle de toutes ces sociétés qui font des jeux, qui les diffusent, qui les partagent, qui les donnent gratuitement. On dit toujours, il y a sûrement de l'argent quelque part, mais comment est-ce qu'on va enfin le récupérer?
Alors, au début, Epic Games gagnait beaucoup d'argent en vendant des skins dans son jeu Fortnite. Au fur et à mesure, ils se sont dit, bah tiens, on va se lancer sur quelque chose de plus grand, nous allons devenir, comme Xbox, comme Steam, une plateforme qui propose des jeux vidéo. Ouais,
c'est ça, tout simplement. Tu installes leur logiciel sur ton ordinateur et tu choisis des jeux. Tu peux en acheter, il y en a des gratuits. Et quand tu lances le jeu, il faut passer par le launcher. Donc, c'est pratique. C'est un outil pratique pour les mises à jour, etc. Moi, j'avais Epic Games, plus Steam, plus je peux avoir le Xbox Pass sur mon ordinateur. Donc, au moment de lancer un jeu, je me dis, ah oui, comment est-ce que je dois lancer le jeu? Est-ce que je dois lancer Epic? Ça devient un petit peu compliqué.
Il y a une grande guerre qui a débuté entre Epic Games et Apple, notamment lorsque Apple proposait sur son Apple Store Fortnite, et que de son côté, Epic Games a proposé des bonus dans le jeu si on dépensait de l'argent, mais hors de l'App Store.
C'est là que ça devient compliqué, oui, parce que effectivement, quand tu installes un jeu sur mobile, là on parle pas de PC, mais sur mobile, iPhone ou autre, tu lances l'App Store ou le Play Store, etc., tu télécharges Fortnite, et pour chaque fois, donc Apple d'un côté ou Google de l'autre se prennent une commission. Ce qui est normal, ils hébergent sur leur téléphone, c'est un service qu'ils rendent à la société, à l'éditeur.
Sauf que Fortnite est gratuit, donc il faut bien le préciser. Donc lorsque vous installez Fortnite sur Apple, de base, ne prend rien. Donc les seules contreparties que va avoir Apple à mettre à disposition ce jeu, puisqu'il est localisé sur ses serveurs à lui, hein, c'est d'avoir une partie des achats qui sont réalisés dans le jeu.
Même sans ça, c'est intéressant pour Apple, parce qu'il y a, je sais pas combien, il y a de millions de joueurs de Fortnite dans le monde. Il y en a beaucoup qui ont un iPhone. Donc c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va aller vouloir jouer à Fortnite ou faire une mise à jour, il va lancer le Play Store d'Apple et peut-être éventuellement en profiter pour acheter d'autres jeux. Donc ça attire, tant que ça attire du monde dans ton magasin, même si c'est pour prendre un objet gratuit, c'est toujours ça de prix, quoi. Peut-être que les gens, voilà.
Quand tu as un iPhone, tu passes forcément par l'Apple Store, ouais. Un jour ou l'autre. Donc t'es un peu tenu par les couilles à ce niveau-là. Quand Apple s'est rendu compte qu'Epic Store disait bah ouais, mais si vous faites des achats dans le jeu, venez plutôt sur notre plateforme et vous aurez des bonus.
C'est pas très bien.
Donc ils ont tout simplement retiré le jeu. Ils ont dit ok, vous voulez jouer au con, on retire Fortnite de l'App Store.
Mais il faut aussi dire que Apple prend 30% de ce que toutes les transactions qui sont faites après dans l'application.
Oui, mais ce qui peut être logique.
Oui et non, dans le sens où le pourcentage qui est pris sur une transaction, ça c'est des contrats de ce que tu veux, mais il faut que ça soit aussi au prorata de ce que tu fais. Sinon, moi je peux dire j'héberge ton chien la journée et derrière je te prends 100 euros par jour. Tu vas me dire mais c'est aberrant.
Tu le soignes, tu vas le promener, tu t'assures que le chien il n'est pas en danger, c'est un service.
Voilà, et après c'est là où au moment où tu vas te dire bah... Tu vas mettre ton raisonnement, moi je vais mettre le mien, et puis tu vas dire bah, c'est trop, c'est peut-être pas assez, donc je vais en profiter, on va continuer le deal, on va l'arrêter. Là, Fortnite a dit bah, écoute, moi 30% c'est trop, bah, dans ces cas-là, je vais passer autre part. Et ce autre part, c'est bah, vous achetez ailleurs et vous passez pas par l'Apple, et au moins vous prenez pas les 30% de commission, donc moi je vous baisse les prix de ce que je vous fais payer.
Le problème, il est peut-être là, en fait, c'est que ça fait plusieurs années que toutes ces plateformes existent, que le monde du jeu vidéo existe, bien sûr, et se développe, mais j'ai l'impression que c'est encore le Far West. C'est-à-dire qu'on découvre, là, il y a une espèce de flou juridique, on découvre et on invente des nouveaux règlements, des nouvelles façons de gagner de l'argent, de partager les jeux, presque au jour le jour.
Dans ce débat judiciaire, il faut savoir qu'Epic Games est extrêmement bien préparé pour attaquer le géant Apple, en prenant des cabinets d'avocats avec une armée de juristes derrière. Apple, lui, a répliqué « Ben oui, mais pourquoi ils s'attaquent à nous comme ça ?» Alors que si vous regardez chez Microsoft, chez Sony, chez Nintendo, les commissions sont quasiment égales à la nôtre.
Après, tu parles justement de différents autres types de plateformes pouvant accepter Fortnite qui prennent aussi des commissions, mais il faut rappeler que Apple, c'est sur les appareils mobiles, alors que Fortnite se refuse d'être sur des plateformes comme le Xbox Game Pass, qui est une plateforme PC, qui dit bah, « moi j'ai ma propre plateforme Epic Game Store, pourquoi je vais aller mettre mon jeu ailleurs ?» On parle aussi de PlayStation ou de Samsung. C'est les contrats qui sont en place. S'ils gagnent un peu moins ou un peu plus, on en revient au deal. Si ça marche pour eux, tant mieux. Après, Apple a le souci d'avoir un monopole au niveau matériel, au niveau logiciel. Ils contrôlent tout, ils ont tout bridé. Et ce qui fait que bah, si tu veux aller sur la plateforme, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui influent sur ton contrat. Je pense qu'ils ont aussi une injonction au tribunal au niveau européen. Et par contre, là, ils viennent se prendre l'Epic Game au niveau américain. Ça commence à faire un peu beaucoup.
Je serais curieux de voir parmi tous les joueurs de Fortnite, donc les jeunes, on va dire les collégiens, je ne sais pas quoi, c'est aussi le moment où peut-être que leurs parents vont leur offrir leur premier téléphone ou qu'ils vont l'acheter avec leur argent de poche, je ne sais pas. Je serais curieux de voir l'influence de leur choix. Est-ce que je vais prendre un iPhone pour faire comme les copains me la péter ou prendre un Android parce que je vais pouvoir jouer à Fortnite avec mes copains? Ce serait marrant de voir l'influence
que ça a sur le marché. Ça peut devenir un argument de non-vente pour le coup.
Après, il faut juste rappeler que ça a été retiré de l'Apple Store, mais ceux qui l'ont encore, qui l'ont eu avant que ce soit retiré, ils peuvent continuer à jouer. Ils ont plus de mise à jour.
S'il n'y a pas un petit moyen de le télécharger par des voies détournées.
Et du coup, tu n'as plus forcément les mises à jour. Donc,
voilà, c'est ça.
Oh, si, tu retélécharges les nouvelles versions, quoi. Comme sur Android, sur certains téléphones qui ne sont pas compatibles, tu peux télécharger directement ce qu'on appelle le fichier APK, c'est-à-dire l'application, le mettre sur ton téléphone, et à tes risques, parce qu'il faut savoir où le télécharger, ou alors, on va toucher un autre domaine dont on reparle régulièrement, tu joues en cloud gaming, c'est-à-dire que tu as un Apple, mais tu joues via une plateforme de cloud gaming sur un serveur qui est, lui, sur un PC, chez Amazon, ou je ne sais quoi encore.
Alors ça, c'est ce qui se développe de plus en plus.
Exactement.
Et qu'on
surtout
a vu
que, voilà, avec les 5G qui va se développer, ça va y aller. Quoi.
Surtout avec la dernière PlayStation, on a pu voir ça à grande échelle, puisque vous pouviez acheter une version de la PlayStation digitale et y jouer à distance. Ces services existent quand même depuis plusieurs années. Alors, bien sûr, au début, ce n'était pas forcément évident. Et on a pu voir se démarquer, en tout cas tout au début de cette aventure, une plateforme française avec le Shadow.
Shadow, tout simplement, c'était Shadow, oui. C'est le nom du logiciel qui permet de jouer si tu as un PC pas très puissant et que tu connais quelqu'un, ou même si à côté tu as une autre machine très puissante, bah, tu peux jouer sur le PC moins puissant, on va dire le terminal. Tu installes le logiciel Shadow qui va juste servir en gros de télévision et tu vas en fait être connecté sur l'autre machine qui va, elle, faire tous les calculs, l'affichage du jeu, etc. Donc ça te permet de jouer à distance. Donc ça peut être sur un ordinateur qui est dans la même maison, mais aussi sur une tablette ou un téléphone pendant que tu es en voyage, etc. Tant que tu as une machine, tu peux te connecter à distance sur une machine plus puissante qui va faire tourner un jeu ou d'autres applications.
Ouais, t'avais une société qui le faisait aussi, qui t'a proposé de gérer ton jeu, mais après t'avais une latence, on va dire, un truc comme ça, quand c'était une question de tu bougeais ton personnage, ça partait sur le serveur qui était hébergé par quelqu'un d'autre et qui te renvoyait la réponse. Pour certains jeux, c'est un peu limite.
Il ne fallait pas faire du jeu compétitif. Hein, là, sinon, du jeu de combat, etc., c'est un peu chaud. Mais là, maintenant, on a la fibre, on a la 5G arrive.
Alors, on a pu voir ça sur le Twitter d'Octave Klaba. Donc,
le grand patron d'OVH. Celui qui installe des serveurs en papier, en bois.
En bois.
Voilà. Et pour plus d'informations, référez-vous au dernier virus informatique. Sur son Twitter, on apprend qu'il y a une décision du tribunal de commerce en faveur de son acquisition de Shadow France. OVH se prédestine à devenir l'un des plus grands piliers du Shadow Play. Alors moi, j'appelle ça Shadow Play, c'est assez marrant.
Ouais, c'est compliqué, j'avoue, je sais pas encore.
Du remote gaming.
On peut pas dire du remote gaming, du jeu virtuel. C'est pas du jeu virtuel parce que tous les jeux sont virtuels.
Le terme officiel, mais... c'est cloud gaming. Ouais.
Ah, cloud gaming, ouais, c'est un peu ça. Oui, parce que effectivement, tu as une machine chez toi qui n'est juste un écran et tout se passe dans cloud à distance. Il n'y a pas de calcul qui est fait sur ton ordinateur, effectivement. Et c'est intéressant de voir ça parce que parmi les gros acteurs, donc on a Amazon, qui possède également c'est des milliards de serveurs, des farms de serveurs, donc sympa. Mmh. Parce que pour faire ça, il faut des serveurs et des machines et calculs, voilà, qui fassent tourner tous les jeux. Donc il faut aussi avoir une infrastructure matérielle déjà. Tu vas pas louer forcément ça. Amazon, ils possèdent ça puisqu'ils ont le service AWS qui héberge des milliards de services dans le monde. Google fait pareil avec Stadia. Donc Google, ils ont aussi quelques machines dans leur garage, on va dire, et OVH, ben c'est OVH. Enfin, ils ont un petit peu moins de serveurs depuis qu'il y en a quelques-uns qui ont brûlé, mais on va dire qu'au niveau matériel, ils assurent, quoi.
On a GeForce Now également, mmh. et Microsoft qui semble s'intéresser également au domaine. Alors, si tout le monde s'y intéresse, c'est peut-être parce que
c'est l'avenir du jeu.
Effectivement.
Bah oui,
à condition d'avoir une très bonne connexion Internet, hein, et qu'on voit le déploiement de la fibre.
Exactement. Avant, on avait des connexions pourries, mais on avait on commençait à avoir des cartes 3D, des cartes de calcul, des processeurs, des mémoires de plus en plus puissantes. Et maintenant que ça commence à être, peut-être que les gens en ont marre d'acheter des machines surpuissantes. Donc tu peux te contenter avec une vieille machine ou une tablette ou je ne sais quoi, faire tourner les tout derniers jeux.
Ça va te permettre aussi de te focaliser seulement sur certains composants de ton PC, plutôt que de remettre à jour l'ensemble de tous les composants. Tu vas te dire, bah moi une carte graphique à 1 500 €, je m'en fous, mais par contre je peux prendre un superbe écran et avoir un très beau jeu, parce que je sais que le côté graphisme va être géré par une autre
structure. Et avec ton super écran, tu pourras aussi regarder les séries que tu vas regarder en cloud, donc en connexion, tu vas pouvoir faire des conférences avec tes potes, etc. Et le jeu ne va faire qu'une partie, ça. Tu pourras faire une conférence en jouant à tes potes et en regardant une série avec ton grand écran. Tu pourras faire plein de trucs en même temps. C'est pratique.
On réécoutera cette émission dans 5 ans.
Moi, j'ai testé Stadia tout simplement sur mon téléphone. Une vieille tablette. J'ai une tablette qui date de 2013. Et ben, je peux jouer à Stadia. Je peux jouer au dernier jeu Stadia dessus. C'est impressionnant.
Alors, je me permets de vous couper puisque nous avons une pile d'albums à dépiler aujourd'hui. Et un qui a été coupé lors d'un précédent montage. Et nous avons reçu des plaintes en direct de Paul McCartney qui nous demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas passé son dernier album qui s'appelle Numéro 3, où il faisait en plus de magnifiques feats, des collaborations avec des grands artistes divers et variés. Je vous propose tout de suite d'écouter Paul McCartney avec Josh Homme. Alors, je le passe tout ça en premier, comme ça je suis sûr que cette fois-ci, il ne va pas passer à la trappe. La chanson s'appelle Lavatory Lille.
For Lavatory Lil,
look out for Lavatory
Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she's really moving in for the kill. Lavatory Lil, watch out for Lavatory Lil.
Watch out for Lavatory Lil.
She says it's hunky dory when she's telling you her story. She really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. Yeah. If you saw it coming, you could look the other way. Oh, it isn't easy when she's rolling in the hay. Track. Oh, it isn't easy when she hits you in the back.
Lavatory Lil. Lavatory Lil. Lavatory Lil. Lavatory Lil. Lavatory Lil.
That's it.
That's it.
Paul McCartney sur son album Paul McCartney 3 en collaboration avec Josh Homme. Alors Josh Homme, le chanteur de Queen of the Stone Age. On enchaîne avec d'autres petites actualités. Alors, on vous en a parlé plusieurs fois, le 3 va lancer son événement complètement virtuel et il commence à avoir beaucoup d'absents sur la liste. Alors certains se désistent, tels que Konami qui se désiste là ce mois-ci. Alors non pas parce qu'il va faire son propre événement, puisque...
On verra. Au niveau communication, c'est bien plus intéressant de te faire un événement à toi avec tes propres dates et tes propres événements que tu maîtrises tout, où on parle que de tes produits à toi. Même s'il y a moins de monde, ça va être peut-être plus parlant que d'être noyé dans une espèce de masse informe virtuelle où les gens vont zapper de chaîne YouTube en chaîne Twitch.
Ouais, après, par contre, t'as l'inverse. C'est qu'aussi, ils doivent se créer un moment dans un planning sûrement, ou depuis déjà avec les différents confinements, télétravail, compagnie, les plannings de présentiel sur Internet, les streams, tout ça, qui est extrêmement chargé maintenant, et ils doivent trouver une date pour attirer du monde, alors que là, tu avais l'E3, qui est bien ancré dans une tradition, tout le monde l'attendait, tu avais une belle vitrine, il faut voir.
C'est oui, mais l'E3, ça reste un événement présentiel.
Mais on parle d'économie, on a parlé plus d'économie que de l'E3. Ils s'en mettent pas, donc tu vois, ça marche. Hein. Mais est-ce que tu as besoin de faire des heures et des heures ou des journées entières de streaming? Pas forcément. Hein. Si tu fais, je sais pas, un truc d'une heure, la plupart des joueurs peuvent suivre ça, je dirais. Te caler une heure en mangeant tes chips et tu regardes et tu vois des images des derniers jeux, ça peut suffire à te mettre le truc dans la tête.
Mais il faut aussi rappeler que créer un événement, alors ici je parle de l'événement en présentiel tel que l'E3, est quand même extrêmement coûteux et demande une logistique impériale. Donc c'est vrai que toutes ces sociétés ne peuvent pas réaliser des événements de telle ampleur, donc c'est pour ça que tout le monde se rejoint à l'E3. Aujourd'hui, quel est le coût pour créer son propre événement virtuel? Alors on a pu le voir à la BlizzardCon, ça coûte pas grand chose de filmer ses ouvriers en plein dépit devant le peu d'avancées sur leurs jeux vidéo. Alors c'est pour ça que Sony, lui, va faire son événement de son côté et a décidé de ne pas participer à l'E3. Ici c'est Konami. Alors les raisons officielles sont, on n'a pas assez avancé sur nos jeux vidéo. Alors, c'est assez surprenant parce que ça ne les empêchait pas d'habitude de se présenter à l'E3. Hein.
Moi, je veux qu'il était fini à sa sortie, je t'en prie.
Et de toute façon, il y a un bon moyen de voir l'avancée d'un jeu. C'est est-ce que vous allez avoir du gameplay ou pas? Et le pire, c'est de juste avoir une bande-annonce sans gameplay qui ressemble vraiment pas au jeu que vous allez avoir.
En mélangeant après avec le sujet dont on parlait avant, le Shadow Gaming Remote Virtual Play Gaming, les prochains salons, moi je veux, au prochain salon où je veux aller, je veux pas regarder des vidéos, je veux simplement me connecter via mon navigateur, installer, quitte à installer un petit plugin, etc., me connecter au serveur du jeu et pendant que l'animateur tester le jeu pendant qu'il joue, quoi. Être dans le jeu pratiquement, et avoir un minimum d'interaction éventuellement, mais je veux pas me contenter de voir une cinématique.
Mais dans ces cas-là, pourquoi tu vas te déplacer alors que tu peux tester les démos, ce qui existait il y a 30-40 ans, tu recevais ta démo, tu jouais avec.
Est-ce que les gens vont encore vouloir se déplacer à part pour faire du cosplay ou récupérer des goodies?
C'est surtout les goodies, avoir des petites exclusivités croisées aussi des joueurs, puisqu'il y a les marques ramènent leurs propres joueurs.
Ça ne sera pas des goodies virtuels bientôt, un petit peu comme les chaussures Gucci ou je ne sais quoi.
Et des petites vidéos dédicacées.
Des goodies dans leur Fortnite que des vrais trucs.
Mais tu vois, là, ça me fait penser que Minecraft, il y a une époque, au tout début de Minecraft, ils avaient commencé à faire un festival vraiment uniquement sur Minecraft. Et ceux qui étaient venus et qui avaient un joueur sur ce logiciel repartaient avec un code. Et quand ils rentraient chez eux, ils mettaient le code. Leur personnage dans Minecraft possédait une cape et disait, bah voilà, t'as été à la Minecon de 2002. T'as cette cape-là, t'as celle de 2003, t'as cette cape-là, et ça se fait, ça.
Bien avant, et maintenant, quand il y a un stream d'un éditeur de jeux vidéo, ben voilà, il y a toujours des petits concours sur Twitch où tu peux gagner des codes, et les codes, c'est au premier, il faut recopier le code très très vite dans ton jeu, parce que les gens sont en train de jouer au jeu pendant que l'animateur, le développeur du jeu, parle des futurs développements du jeu, il donne des codes, et tu tapes ton code dans le jeu, et boum, t'as un super truc, un objet, une arme, ou je ne sais quoi.
Mais on peut aussi comparer, je vais prendre le cas de la Japan Expo. Pour ceux qui ont déjà été à la Japan Expo, est-ce que vous avez regardé un seul animé sur place?
Mais non,
Non, plus un univers, la Japan Expo.
Le 3, c'est un univers de jeux vidéo. C'est pareil.
Tu vas pour rencontrer des gens en vrai.
Pour moi, c'est pareil.
Ouais, je pense que l'aspect univers à l'E3 est moins présent que tout ce qui est les affaires de manga, medieval fantasy et compagnie. Mais par contre, oui, je suis d'accord. Tu vas à l'E3, tu peux rencontrer du cosplay ou des trucs comme ça, il n'y a aucun problème. Tu vas surtout pour la technologie, tu vas pour les futurs jeux, tu vas pour la branlette intellectuelle pendant 2 heures à regarder quelqu'un qui te parle d'un jeu, ou tu verras que des vidéos en disant que c'est le 7e jeu identique depuis 7 ans, mais tu vas dire waouh, il sort dans 2 mois, je me l'achète.
Il y a tellement de gens qui streament, je me dis dans le salon la moitié des gens doivent être avec leur téléphone en train de streamer. C'est que des youtubeurs qui vont, j'ai l'impression.
Bon, je sens qu'il n'y aura pas grand monde devant le 3, en tout cas autour de cette table.
Je vais juste regarder les trucs en télé éventuellement, mais c'est tout quoi. Bah, on l'a bien vu avec les Oscars, enfin dans un autre domaine, mais les Oscars cette année, ils ont fait un rendez-vous virtuel, donc il y avait quelques invités dans la salle, enfin les gens qui étaient nominés. Mais je crois que l'audience télé a été divisée par deux.
Au niveau du jeu vidéo, en tout cas, je pense que Blizzard a ouvert un peu le bal des conférences virtuelles cette année et a fait un flop total. Et je pense qu'il a un peu pourri le passage pour les autres.
Les gens veulent des jeux, des bons jeux et des jeux originaux, c'est tout.
Ah, ça sera peut-être pas cette année, vu la difficulté des studios à produire des jeux vidéo en ce moment. En fait, ce qui tourne bien en ce moment, ce sont les franchises qui ont leur studio qui tourne et qui n'ont qu'à faire des petites mises à jour de contenu. Et ça fonctionne encore pas mal.
La non-inventivité et le développement des jeux ne rencontrent pas les attentes des joueurs. Ils ont du mal à capter.
On peut enchaîner, cette fois-ci on va rester un peu dans l'univers du jeu vidéo, mais on va partir un peu dans la série. Et on parlait de la Japan Expo tout à l'heure, on va avoir une série animée tirée d'un jeu vidéo, et pas n'importe lequel, League of Legends, le fameux LOL.
LOL qui existe depuis combien de temps ça fait,
depuis que LOL existe.
depuis que l'homme existe. 2009-2010, je sais plus.
Pas mal, une douzaine d'années, je crois. Alors, il y avait déjà eu des projets de série, je ne suis pas sûr. Mais là, le truc, c'est que la série qui va s'appeler Arcane, donc qui devrait être lancée en automne 2021, est produite par un studio français qui s'appelle Fortis Productions, qui avait déjà travaillé notamment avec Riot, Riot Games et d'autres éditeurs. Ils avaient fait une série animée pour les studios Marvel. Donc, apparemment, on va suivre les aventures de deux personnages, de deux champions qui sont dans LOL. Donc, je n'ai plus les noms, mais c'est pas très grave. Ça fait tellement longtemps que LOL, je n'y ai pas joué.
Or, si vous ne connaissez pas ici, vous allez partir dans une bataille multijoueur virtuelle où vous allez tous vous battre sur un grand terrain.
Oui, c'était Dota, enfin, c'est le grand adversaire de Dota, on va dire.
Voilà. Et Heroes of the Storm, si je ne me trompe pas, se base sur le même concept. Bon, ça peut être intéressant. Après, ça ne reprendra bien sûr pas les mécaniques du jeu. Mais dans League of Legends, on a tellement fait de personnages que ici, on a du contenu. Puis Netflix a dû voir ça. Mais on peut faire 20 saisons avec votre jeu, là. J'achète.
Donc on va suivre, surtout que là, qu'on l'a dit, c'est un studio français qui va faire la série. Cocorico, comme on dit.
Oh, j'attends de voir. Donc, ça sera dispo fin 2021 sur Netflix. Un peu de musique. J'ai encore quelques albums tout frais cette fois-ci, puisque celui de Paul McCartney avait quand même déjà commencé à prendre la poussière. J'ai 3 albums d'actualité, tout frais, tout beau, tout chaud, avec notamment Royal Blood.
Je me demande si j'en ai pas passé même dans l'émission. En fait, c'est un duo. Et c'est original parce que c'est, si je dis pas de bêtises, il y a un batteur. Et alors, c'est soit un bassiste, soit un guitariste. Je sais plus.
C'est les deux. En fait, il a une particularité. Lorsqu'il joue de la basse, il est également capable d'appuyer sur une pédale qui branche un ampli de guitare, ce qui fait qu'il duplique son son. Et on a l'impression d'avoir un groupe complet. Et derrière, il y a un batteur. Et puis, le bassiste-guitariste est également chanteur. Alors, ça parle un peu de jeux vidéo, puisque la chanson s'appelle Oblivion et elle est tirée de leur dernier album qui s'appelle Typhoons.
Higher and higher, keep like this forever, run it out of-
l'astéroïde Blood avec... Alors, est-ce que c'est Typhoons ou Typhoons ?
Typhoon, qui est le nom du premier groupe de Jean-Jacques Goldman. Je ne sais même pas pourquoi je sais ça, mais...
Voilà, avec le titre Oblivion, rien à voir avec la légende d'Elder Scrolls.
Peut-être qu'ils ont joué, on ne sait pas.
Et j'ai un autre album juste après qui est aussi avec un titre de jeu vidéo. C'est incroyable comme tout se connecte à l'heure actuelle. Alors, on parlait la semaine dernière de grandes sociétés qui s'amusent à racheter d'autres sociétés. Or, généralement, c'est pour faire un peu du profit et puis bon, ça fait gagner un peu d'argent à tout le monde. Cette fois-ci, c'est Muse Group. Alors, est-ce que ça a à voir avec le groupe de Mathieu?
Non, pas du tout. Quoique ça parle de musique, mais c'est pas ça, c'est pas le même.
Donc Muse Group n'a rien à voir avec le groupe Muse.
Avec la musique non plus, c'est ça?
Ah, je pense aussi.
Oui, grand débat.
Il décide de racheter le logiciel Audacity. Alors, ça pose une grande question.
Et les podcasteurs et même animateurs radio comme nous. Hein.
Alors, nous sommes en train d'enregistrer actuellement sur Audacity, puisque nous ne sommes pas encore dans les studios de Radio Campus. Donc, cette émission est bien sûr en différé. Il y a quand même un problème dans cette équation, c'est que Muse Group rachète un logiciel gratuit.
Pas vraiment. Enfin, il n'achète pas le logiciel, en fait. C'est ça. Le concepteur d'Audacity a déposé la marque Audacity pour justement protéger son logiciel et pour qu'il reste gratuit, que son code source soit open et gratuit pour tout le monde, pour qu'il soit évolué et modifié par qui veut. Ce nom déposé a été racheté. Et c'est ça qui a été acheté, et non le logiciel. Mais de fait, comme tu as acheté le nom, tu as pris le logiciel avec.
Mais qu'est-ce qui empêche à ce moment-là le développeur du logiciel Audacity de changer de nom ? Ce qui arrive de temps en temps, hein, de faire un autre logiciel.
Ah, mais c'est ce que tout le monde se demande. Est-ce que toutes les personnes qui ont aidé le logiciel à évoluer, est-ce qu'ils ne vont pas juste faire un parallèle, une sorte de clone, voilà, c'est le terme adapté, et continuer de leur côté, laissant le logiciel Audacity partir vers d'autres aventures.
Il est français, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le développeur original d'Audacity s'appelle Dominique Mazzoni, je ne sais plus. Mais ça fait quoi ? Ça fait plus de 20 ans qu'il existe ce logiciel, et c'est vraiment une référence. La toute dernière version, ça fait pas tant. Moi, je crois que je suis sur la 3, vous êtes encore sur la 2.4, mais c'est un logiciel qui est référence, qui est utilisé même par des professionnels, des studios professionnels, hein, même s'ils ont... Parce qu'au lieu d'acheter des logiciels de son qui coûte des milliers d'euros parfois, avec ce simple logiciel gratuit et un PC de base, tu peux déjà faire du travail vraiment, vraiment impressionnant.
Alors, Muse Group est actuellement au développement de Muse Score, qui est un logiciel de partition de musique, alors qui est à moitié gratuit, où justement vous pouvez prendre quelques partitions et ensuite participer à quelques abonnements payants pour avoir plus de fonctionnalités.
Ça peut être, oui, parce que eux ils disent bien, non, le logiciel va rester gratuit, ça va être juste, ils vont rien toucher à ça, quoi. Ça peut être intéressant éventuellement s'ils intègrent le système de partition dans Audacity, non, je sais pas, ça peut.
Alors c'est un peu ça le but apparemment de Muse Group, c'est de non pas de racheter comme des prédateurs et puis de mettre leur grosse patte dessus en disant maintenant c'est à nous, c'est plutôt de racheter, de faire cohabiter ça avec les autres logiciels qu'ils ont, sachant que eux veulent créer un peu une solution toute faite pour la musique.
Travailler un peu comme un éditeur alors, avec plusieurs solutions. Et
voilà. Alors ça ne veut pas dire que Audacity ne sera pas payant, il sera gratuit, mais il aura des options payantes, par exemple pour l'intégrer sur votre site professionnel ou pour avoir une fonctionnalité supplémentaire. En tout cas, Audacity a quand même une excellente réputation pour ceux qui veulent enregistrer sans se lancer dans des machines à gaz telles que celles d'Adobe, par exemple.
Mais l'un des avantages aussi d'Audacity, c'est qu'il est disponible sur Windows. Je crois qu'il doit tourner sur Mac, sur Linux. Donc, il est très facile à utiliser, à trouver, quelle que soit ta machine. Quoi. Pas sur les mobiles, mais pour l'instant, en tout cas, mais ce ne serait pas impossible.
Facile, gratuit, léger. En tout cas, il avait tout pour plaire. On verra.
Après, tu dis facile, plus ou moins, pour les personnes qui ne sont pas adeptes de la musique, de tout ce qui est les effets, les pistes, les différentes mécaniques d'un logiciel de musique ou de capteur de son. C'est un peu obscur. Et, tu dois savoir où cliquer. Heureusement qu'il y a des tutoriels sur le net parce que sinon, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. Mais en revanche, ça aussi, ça a été pris en compte parce qu'ils pensent complètement rafraîchir l'ergonomie d'Audacity et pour que les personnes qui se disent, bah tiens, comment on fait une amplification d'une crête sur ma piste, hop, et je peux le découvrir plus facilement et de fait aller peut-être un peu plus loin dans la démarche et découvrir des choses. Pour en plus, peut-être aller vers une option payante parce que cette chose-là m'intéresse. Donc, oui, c'est assez réfléchi, mais tout en même temps, rester gratuit pour le commun des mortels comme nous qui l'utilisons
quotidien. Après, je pense qu'il reste encore facile d'utilisation. On est loin d'un logiciel DMAO tel que Cubase ou autre hein, qui peuvent servir à faire des fois les mêmes fonctionnalités. Après, c'est plus compliqué que le microphone Windows. Oui, d'accord.
Ouais, bah attends, en même temps, tu vois, là, moi je l'utilise.
Mais
voilà, on l'utilise. Je l'utilise aussi pour d'autres projets. Sur les 150 liens cliquables, fonctionnalités cliquables que j'ai sur les différents menus, je dois en utiliser 5. Les autres, je ne sais pas à quoi ça sert.
Énormément de logiciels qui sont fournis ou pas avec tes ordinateurs, on n'utilise en général que 5 à 10%.
En tout cas, Audacity a sorti sa version 3.0.
Parce que pour ceux qui connaissent, ça te sort un seul fichier projet, alors qu'avant, les anciennes versions sortaient un répertoire rempli de milliers ou de centaines de petits fichiers. C'est plus simple.
C'était pas facile à exporter, c'est vrai. T'es obligé de le recompiler derrière. Autre petite actualité, alors cette fois-ci, on va faire un clin d'œil aux précédentes émissions. Et je pense que Elon Musk a été détrôné. Puisque c'était un peu notre chouchou dans l'émission, il était détrôné par le chien de Boston Dynamics, qui en ce moment est partout, et chaque semaine nous apporte toujours une petite news qui nous fait sourire. Alors, est-ce que ce chien robot ne fait pas un peu peur ? La police de New York s'est dit, bah tiens, on va prendre le petit robot, il est tout mignon, et puis on va le faire marcher à nos côtés, et puis ça va devenir un policier. Ça va sûrement faire plaisir aux gens.
Et ils l'ont surnommé Robocop, c'est ça ?
DigiDog a fait ses premières apparitions dans le NYPD en 2020, puisqu'il voulait tester une nouvelle génération d'engins robotisés. Et John Miller, qui est le commissaire adjoint de la police de New York, a déclaré qu'ils allaient signer un contrat de $94,000. Et ce contrat devait se terminer en août. Il vient d'être terminé de façon prématurée. Quels étaient les champs d'opération du robot ? Il avait premièrement plusieurs caméras et des lumières fixées sur son châssis. Donc il avait...
Les policiers maintenant, ils avaient aussi des caméras sur eux.
C'est ça. Donc il pouvait assister pour justement filmer. Alors, on ne vous le cache pas, maintenant il y a de la reconnaissance faciale hein, qui traîne. Donc il pouvait aider aussi à ce niveau-là.
C'est une espèce de drone, mais sous patte. Il vole, celui-là.
C'est ça. Donc une petite caméra mobile pouvait voir également dans le noir et il pouvait évaluer la sécurité des agents avant, par exemple, qu'ils pénètrent dans
c'est vrai,
un bâtiment.
Si des agents doivent entrer dans un appartement où il y a qu'il y a des personnes armées ou qu'il y a là, des gens qui se battent, etc., plutôt que d'envoyer un policier, même avec des protections, des gilets pare-balles, etc., tu envoies une caméra, donc que ce soit un petit drone volant ou un chien qui marche équipé de caméra, pour explorer, parce que même si quelqu'un tire dessus, ben voilà, il n'y a pas de victime. Ça peut être une solution. Un petit peu comme les chiens ou les robots des mines que tu envoies à distance plutôt que d'envoyer des mineurs humains.
Enfin, il faut rappeler aussi que c'est le genre de robot qui est bourré de capteurs divers et variés et qui te permet de remonter les informations. Il y a autant de soufre, de machin, de produits illicites, dangereux pour la santé humaine et permettre justement à éviter aux policiers d'aller dans un lieu dangereux pour eux.
On rappelle une série télé des années 70 ou 80 avec un homme policier qui était engagé par la police en secret. C'était terrible, c'était super kitsch, mais c'était une espèce d'androïde. Enfin bon, on va y arriver.
Bah, déjà, là, il y a pas mal de monde qui remonte la comparaison avec la série Black Mirror.
Ouais, c'est clair.
Quelles sont les critiques qu'on peut faire, alors qu'on fait en tout cas les New Yorkais face au robot DigiDog ? La première... qu'il fait peur, et comme vous le disiez, ça fait
c'est
référence
vrai que tu sais
à des...
Pas contente, quoi. C'est vrai que quand tu as un chien devant toi, au moins si le chien aboie, il a l'air menaçant, tu sais qu'il est menaçant. Mais là, c'est un bout de plastique et de métal. Tu sais pas s'il a envie de le caresser ou de partir en courant, tu sais pas, enfin, tu n'arrives pas à lire ses émotions, façon de parler.
Donc ça inquiète les gens, et puis ils se disent, mais qu'est-ce qui nous prouve que le robot va pas se retourner contre nous ? Et la deuxième grande plainte et la plus grande remontée médiatique, c'est que les personnes se sont dit bah, « c'est très bien, vous avez investi 94 000 $ dans ce magnifique joujou, mais quand est-ce que vous avez fait des innovations technologiques pour l'éducation, pour la santé ?» Du coup, ils ont préféré éviter tous les remous médiatiques et arrêter la collaboration. Alors je pense que Pierre-Yves sera très déçu quand on n'entendra plus parler. Parce qu'à mon avis, on aurait pu avoir quelques bavures policières au NYPD avec le robot dog.
Ils auraient pu mettre ça sur la faute du chien, justement. C'est une façon de fausser. Même en France, l'armée française a testé aussi le chien spot dans des exercices de combat.
Sauf qu'eux ne l'ont pas déployé au grand public.
Vraiment, je pense pas. C'est pour tester, quoi. Au moins pour se poser la question, quoi, d'imaginer l'avenir de l'armée ou de la police, de la sécurité.
Au NYPD, on s'en servait aussi pour les prises d'otages. Hein, c'est mieux si le robot se décidait « prenez-moi à sa place ». Ça marche beaucoup mieux.
Tu peux demander une rançon. Hein.
On parle beaucoup de ce chien robot-là, mais il ne faut pas oublier que la robotique, c'est aussi énormément d'autres robots plus ou moins avancés et qui ont peut-être des spécifications plus avancées dans certaines situations que celui-là.
L'avenir, ce sera, il y aura une combinaison de drones, de chiens au sol, il y aura plein de moyens de technologies comme ça qui éviteront de mettre des personnes en danger sur le terrain.
Allez, on va se rassurer avec un peu de musique, avec un groupe qui se bat pour la planète et qui sort un nouvel album qui s'appelle Fortitude. Or, si vous êtes adepte de death metal français, vous connaissez sûrement le groupe Gojira, qu'on a pu connaître en 1996 sous le nom de Godzilla, et qui ont ensuite changé de nom, alors sûrement pour des ayants droit.
Gojira, on peut les entendre régulièrement dans diverses émissions de Radio Campus.
On n'échappera pas à la règle d'écouter une chanson de leur nouvel album. J'ai choisi Another World, hein, comme
très
ça
bon
on
jeu.
Reste toujours dans le jeu vidéo.
Fire!
Voilà, c'était Gojira avec Fortitude et le morceau Another World. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 dans l'émission Heureusement en France. On parlait tout à l'heure du chien Digidog. Et également, pour faire un clin d'œil à une autre émission, on va vous parler rapidement de l'Oculus Quest 2. Alors, on parlait du festival qui a lieu en ce moment dans les Hauts-de-France, qui vous permet de tester des casques de réalité virtuelle. Vous savez que chez Oculus, on travaille avec Facebook, hein, puisque c'était racheté par Facebook. Et du coup, si vous utilisez le casque, vous avez dû vous identifier avec votre compte Facebook.
On était obligé d'avoir un compte Facebook pour acheter un casque, ouais, pour l'utiliser.
Ah non, tu peux l'acheter. Attention. Tu peux acheter le casque. Mais si tu veux l'utiliser, il faut t'identifier avec un compte Facebook. Alors, je pense qu'il y en a qui ont dû l'acheter et se dire, mais non, c'est hors de question. Je passe pas le cap.
C'est un faux compte, je ne sais quoi.
Ouais, tu le revends, t'achètes un Vive, pourquoi pas. Il y a quand même une possibilité de se passer d'un compte Facebook. Alors, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute. Puisqu'on va vous donner cette technique qui est hors du commun et qui est un coup de pub de Facebook incroyable. Si vous voulez vous passer du compte Facebook, il va falloir obtenir la version un peu business du casque Oculus Quest 2. Pour ce faire, il suffit de contacter Oculus directement, de signaler que vous êtes une entreprise qui souhaite faire des tests sur l'Oculus et notamment des développements d'applications. Et ensuite, pour la modique somme de $799, alors sachant que le casque en lui-même en coûte 299, pour la modique somme additionnelle de $500, vous allez pouvoir vous passer d'un compte Facebook.
La liberté a un prix.
Ça vous fait pas rêver ?
Est-ce que, comme tu disais, acheter un autre type de casque de réalité virtuelle te coûtera beaucoup moins cher que $500 ?
Maintenant, tu as des développements de jeux de réalité virtuelle où ils décident de travailler que sur une plateforme. Alors, tu en as quand même qui veulent jongler entre les deux pour
c'est
avoir le maximum.
C'est comme les jeux qui sortent que sur une seule marque de console. C'est chaud.
C'est ça. Mais c'est un coût de développement de travailler sur deux supports. Et certains jeux n'ont pas la possibilité, donc ils choisissent un seul éditeur.
Si ton jeu est difficile à développer sur plateforme, il faut peut-être te poser des questions sur ta qualité de développeur, peut-être. Hein. Peut-être que tu l'as mal pensé au départ. Mais il y avait un souci aussi avec le fait d'avoir un compte Facebook, c'est que quand tu achètes, non pas le casque seulement, mais les jeux, les applications, etc., tu les achetais, elles étaient achetées via ton compte Facebook. Le problème, c'est que si un jour tu décides de supprimer ton compte Facebook parce que tu n'aimes pas leur plaisir, eh ben, tous les achats que tu as fait partiront à la poubelle. Faut faire attention, c'est un des défauts.
Mais est-ce qu'on peut vraiment supprimer son compte Facebook, Dominique ?
Peut le désactiver.
Voilà. Donc, dans le fond, ils seront pas.
Du coup, tu n'auras plus. Et si tu recrées un nouveau compte Facebook plus tard, tu n'auras plus tous les jeux que tu as achetés. Donc, il faut faire attention.
Ben, c'est ça, avant.
Que tu le gardes. Hein. Il ne va pas se volatiliser. Il ne va pas se dissoudre. Mais,
avant, tu achetais une console. Quand tu la revendais, tu revendais tous les jeux avec.
Non, tu avais les CD et les DVD.
Ah, c'est ça.
Oui.
Maintenant, c'est fini.
Avec... Oui, même si tu achètes le CD ou le DVD physique, tu dois avoir un moment, un endroit où tu le mets sur ton compte. Même si j'imagine aussi, ça c'est en train de changer, on parlait de législation de Western tout à l'heure, enfin de Far West, c'est aussi des choses, le fait de pouvoir revendre, ça fait longtemps que c'est en discussion, de pouvoir revendre des jeux dont tu as simplement le code que tu as acheté en ligne, quoi. De pouvoir les céder à quelqu'un d'autre.
Alors du coup, est-ce que vous serez prêt à faire un compte Facebook ?
Non.
J'en ai déjà 4 ou 5 des comptes Facebook, c'est pas un problème, mais acheter un casque virtuel, non.
Alors, et moi, à l'inverse, j'ai aucun compte Facebook, et même si je suis intéressé par l'achat d'un casque de réalité virtuelle et que l'Oculus Quest 2 a l'air d'être pas mal pour justement le côté grand public et débutant dans cette section, non, je vais pas claquer de la thune pour en plus créer un compte Facebook, pour en plus après être emmerdé, non.
Oh, $500, c'est bon. Hein.
Ouais. Et $500,
Je dis ça, faut déjà aller les convaincre de t'envoyer. Donc, il va falloir prouver que tu es dans le développement d'applications. Ça sera pas évident comme démarche. Alors, toujours dans le jeu vidéo. Alors, cette fois-ci, on va partir sur un des plus vieux jeux vidéo, en tout cas un des plus célèbres et qui perdure. Il est toujours là, les gens y jouent toujours. C'est Tetris. Alors, il y a encore des actualités sur Tetris et notamment dans l'obtention des records du monde. puisqu'il y a des compétitions Tetris qui durent toujours. Alors attention, ici on ne parle pas de Tetris où on joue sur PC, chacun sa version. Non. On joue à la dure avec une Super NES.
NES, pas une Super NES, une NES.
Ouh, pardon, oh là là.
Quand tu serais pas un puriste à faire tes compétitions sur la Game Boy directement.
NES avec la bonne vieille manette un peu carrée, là, ouais. Les beaux boutons rouges en plastique, attention. Hein.
C'est ça, donc les compétitions, il faut avoir la NES, le bon jeu et surtout la bonne manette. Est-ce que l'e-sport a pas commencé d'ailleurs avec Tetris il y a plus de 30 ans?
Je suis pas sûr, je pense que ouais, pas forcément, mais c'est vrai que quand tu joues à Tetris au début, tu joues normalement, quoi. Tu utilises les flèches directionnelles pour déplacer la pièce qui tombe et les boutons pour le faire tourner. Et de plus en plus vite, et le jeu va de plus en plus vite, plus tu passes les niveaux. Je crois que sur la version NES, il y a 29 niveaux, donc ça va de plus en plus vite. Et au-delà du 29, il n'y a plus d'incrémentation, quoi. Les pièces tombent de plus en plus vite, mais c'est tout.
Sauf qu'elles vont tellement vite, les gens doivent adapter des nouvelles techniques en fait, pour essayer ça, de suivre.
Même si tes yeux et ton cerveau arrivent à anticiper ce qui se passe, tes doigts et les manettes, enfin tes doigts n'arrivent plus à donner les commandes assez vite à la manette pour faire tourner les pièces, pour les faire bouger. Donc les joueurs ont commencé à adapter. Ils n'ont pas triché, hein. Ils modifient pas les manettes, ni rien du tout. Au pire, tu peux mettre des gants éventuellement si tu as des doigts un peu sensibles. Parce que je me rappelle de parties notamment de Street Fighter ou de Dragon Ball sur Super NES où je me suis bien mis les doigts. Donc il y a des techniques où tu frottes tes doigts très très vite sur la manette. Il y a plein de techniques comme ça.
Je pense qu'on a tous essayé ça.
Oui.
On a tous essayé ça, notamment sur Track and Field, où pour courir, il fallait bourriner le bouton comme un dératé.
Les bons vieux jeux olympiques ou sports des années 90.
La technique très simple, voilà, tu mets ton doigt sur ton ongle sur la touche et tu les fais passer très très vite de l'un à l'autre. Et voilà, il y a plein de petites techniques que les joueurs.
Ça, c'est la technique du rolling, Dominique, qui était reconnue sur Tetris.
Il y a tellement de noms de techniques.
Alors, il y a l'hypertyping aussi. Vous appuyez très rapidement sur les touches directionnelles.
Tes doigts.
Le rolling, vous faites glisser les doigts très rapidement. Et attention. Une nouvelle méthode vient d'avoir le jour cette année et vient d'être maîtrisée à tel point qu'elle a fait ses preuves dans les compétitions.
Un inventeur a explosé les records.
Alors, il faut savoir que les techniques, par exemple, d'hypertapping sont tellement compliquées que très peu de joueurs qui jouent déjà au niveau et qui arrivent à gérer le niveau, comme tu dis, 29, où ça va tellement rapidement, que il y a très peu de joueurs qui maîtrisent la technique et qui sont super bons. Alors que là, cette nouvelle...
Surtout, ça demande un entraînement et des capacités physiques, une réaction pas hors du commun, il ne faut pas pousser, mais voilà, il fallait l'entraînement. Tout le monde ne pouvait pas y arriver, effectivement.
Et cette nouvelle technique est accessible quasiment à tout le monde.
Comment expliquer ça? En fait, le but, c'est de presser très très vite sur les boutons. Le plus vite possible. Donc effectivement, tu peux mettre ton doigt et appuyer très très vite, mais tu vas te fatiguer, puis ça va pas être régulier. Une autre technique, c'est d'appuyer avec plusieurs doigts. Mais là, le joueur, enfin qui a inventé ça, c'est simple, il place la manette. Alors c'est difficile de décrire à la radio. Entre ses doigts, et au lieu de simplement baisser le doigt plus très vite, eh ben tu bouges la manette entre tes doigts. En gros, pratiquement c'est ça. Tu tapotes très très vite en dessous de la manette, ce qui fait que c'est la manette au lieu de que c'est tes doigts qui va presser plusieurs fois par seconde sur la manette, c'est ta manette qui va venir taper mais des dizaines de fois par seconde sur ton doigt.
C'est un peu comme si vous tapiez sur une table avec vos trois doigts et vous les faites défiler, c'est vroom. Et là c'est pareil, vous allez tenir la manette et en dessous de la manette vous allez faire cette technique en restant appuyé. Du coup ça va créer une légère vibration et hop, vous arrivez à faire plus de 20 mouvements en une seconde.
Par seconde, c'est impressionnant. Il y a même un autre qui a repris la technique et qui l'a amélioré. Il arrive même, il cale la manette avec son pied pour stabiliser, pour réduire les vibrations et augmenter encore la cadence.
Donc, tu fais des mouvements de levier plutôt que des mouvements de pression et tu as beaucoup moins de fatigue musculaire à ce niveau-là.
Et en plus, voilà, c'est ça, la grande révolution, c'est qu'à la fin, tu arrives encore à bouger tes doigts. C'est génial. Et on termine cette émission en musique avec un groupe de punk rock celtique, ce Dropkick Murphys, avec leur nouvel album qui vient juste de sortir, Turn Up That Dial. La chanson s'appelle HBDMF. On se retrouve pour notre part la semaine prochaine, 18h, 19h. Restez avec nous sur Campus 106,6 FM et DAB+. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao!
À plus! Oh.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
A big deal of their birthday. It's time to simmer down.